Cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 12 janvier 1995.
Je rappelle, et nous continuons, qu'au plan philosophique, le problème de l'éthique aujourd'hui est un problème brûlant.
Dégradation, on peut dire, de cette
poser le problème. Parce que c'est important, le fondement n'est pas le même. Je pense personnellement, jusque nouvel ordre, puisqu'on cherche la vérité, donc on ne peut jamais dire c'est ça la vérité de façon absolue, surtout dans ce domaine-là. Je pense qu'il peut y avoir une éthique fondamentalement humaine, c'est-à-dire un acte volontaire qui peut exister à partir d'une finalité humaine qui n'est pas encore religieuse. L'amour d'amitié. Je crois. Et cette éthique fondamentalement humaine, qui n'est pas religieuse, qui n'est que humaine, à un niveau assez horizontal, mais pas entièrement horizontal, c'est pas la psychologie. La psychologie ne peut pas fonder l'éthique. Et morale sans péché, Dénard, d'un petit livre intéressant. Qui aurait voulu fonder une éthique d'un point de vue purement psychologique. Il n'y a pas d'éthique sans l'aspect de la finalité. Non, la psychologie n'atteint pas la finalité, n'atteint que le conditionnement. Donc, elle ne peut pas fonder une éthique. Et la finalité première que j'atteins, c'est par l'amour d'amitié. C'est pour ça que je dis, avec l'amour d'amitié, il y a éclosion d'une certaine éthique que j'appellerais fondamentalement humaine. Et je crois qu'on peut découvrir une véritable éthique à ce niveau-là. Je mets ça à point d'interrogation, tout le monde n'est pas d'accord, je le sais. Ça, c'est le critère du suffrage universel n'est pas un critère de vérité, on le sait. Parce qu'il peut y avoir des quantités d'imbéciles et l'imbécilité demeure imbécile. C'est pas si il suffit qu'il y ait un sage pour que le monde entier ne soit pas imbécile. Alors soyons ce sage. Comme ça, le monde entier n'est pas imbécile. Je crois que l'amour d'amitié peut fonder une éthique. L'expérience de l'amour d'amitié qui existe, même chez des gens qui ne sont pas religieux, c'est-à-dire qui n'ont pas découvert l'existence de Dieu, ça existe. On a tous rencontré. Et quand j'aime quelqu'un comme un ami, la note religieuse n'est pas immédiatement présente. J'aime cet individu. Et cette éthique d'amour d'amitié exige la découverte des vertus cardinales. Parce que si je suis un gourmand, mais un gourmand forcené, je mangerai mon ami. Et si je mange mon ami, je fais disparaître l'amour d'amitié puisque je suis seul. Le gourmand forcené est toujours seul, puisque tout est relatif à lui, comme une nourriture qu'il mange. Il se nourrit de la vérité, mais il la mange. Ça existe, hein. Ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et la tempérance est faite pour empêcher ça. La petite vertu de tempérance me permet de sauvegarder l'autre comme autre. D'accepter devant moi qu'il y ait des chocolats qui peuvent rester toute l'année en face de moi sans que je les mange. Parce que, en dehors de moi, il est autre que moi. Donc il est plus que moi. Tandis que quand je le mange, il est moi. La force est nécessaire pour maintenir l'amitié. Il faut être très fort. Pour laisser à l'ami sa liberté. quelque chose de distinct, d'irréductible. Et quelque chose qui va plus loin. Puisqu'à ce moment-là, je touche par l'adoration. Je touche par mon adoration une réalité qui me dépasse, qui me transcende. L'ami me transcende et me dépasse. Mais il me dépasse d'une manière telle qu'il y a réciprocité. Au plan purement religieux, il y a réciprocité à l'égard de Dieu créateur, mais une réciprocité qui est très particulière, puisque je sais et j'ai découvert que mon âme, créée par Dieu, Dieu l'a créée de rien. Donc, je suis en face de quelqu'un qui m'a tout donné. Et donc, en face de cet être qui est le Dieu créateur, que les traditions appellent le Dieu créateur, en face de cet être, j'accepte d'être celui qui a tout reçu de lui. Et c'est cette acceptation amoureuse, sans revendication. Il n'y a pas encore le syndicat pour qu'il existe. Le communisme athée, c'est le syndicat des créatures qui revendique contre Dieu. Et qui n'accepte pas de reconnaître qu'elles sont dépendantes de Dieu. Et qui refuse ça. Et qui se syndique pour construire la tour de Babel. En disant, par nous-mêmes, nous atteignons le ciel. Nous n'avons pas besoin du ciel. Le ciel n'existe pas. Le ciel, c'est nous. C'est la revendication fondamentale de l'athéisme. Il faut bien comprendre l'athéisme. C'est une revendication affective en premier lieu. C'est celui qui n'accepte pas de dépendre radicalement d'un autre. Affectivement. Et qui par le fait même refuse tout acte d'adoration. L'acte d'adoration étant compris comme au fond l'acceptation d'être esclave. Alors que c'est pas ça du tout, puisque c'est Dieu qui est l'auteur de ma liberté. C'est Dieu qui veut que je sois libre. Tandis que l'esclave sait très bien que son maître ne veut pas qu'il soit libre. Puisque s'il était libre, il ne serait plus son esclave. Tandis que quand il s'agit de Dieu, Dieu ne veut pas que je sois un être rampant. Dieu veut que je sois, au contraire, un être qui peut librement l'adorer. Il n'y a pas d'adoration morale sans la liberté. Donc, sans un amour, l'adoration est un acte d'amour libre. C'est très très important pour nous. C'est une des clés au point de vue pratique, au point de vue philosophique, pour nous. De redécouvrir radicalement ce qu'est l'adoration. Et nous avons tous à la redécouvrir. Ne disons pas, je sais ce que c'est. Oh non. Celui qui dit ça, ça prouve qu'il n'a jamais adoré sa vie. Je ne sais jamais ce que c'est que l'adoration. Parce que je touche quelque chose de très absolu dans l'adoration. Je cherche. J'essaie d'adorer vraiment. J'essaie d'être lucide. Jusque-là, fondamentalement. Je fais des actes d'adoration, mais faire des actes d'adoration, ce n'est pas encore avoir la lucidité plénière que je devrais avoir pour adorer vraiment, pour avoir cette liberté dans l'adoration, et pour m'offrir. L'adoration est complexe comme acte, implique un sens de la création. Alors, ce sens de la création, je l'ai ou par les traditions, au plan philosophique, je l'ai ou par les traditions religieuses, ou je l'ai par moi-même, ayant découvert, par ma philosophie, l'existence d'un être premier qu'on appelle reposant sur les traditions religieuses. C'est là où la preuve de Pascal joue. Les traditions religieuses me disent qu'il existe un Dieu créateur. C'est quelque chose de tellement grand que refuser ça, j'en suis incapable. Dans un monde qui se paganise, dans un monde qui tombe dans et pour être ta mère. C'est très très extraordinaire. Voyez, on voit ce que c'est que la tradition. La force, pas une tradition divine. Tradition humaine. Et c'est, la tradition peut commander toute une attitude. Alors, c'est ce qui fait le drame d'aujourd'hui. C'est que des jeunes qui commencent à faire des sciences, qui commencent à découvrir autre chose, la tradition est relativisée. Il n'y a rien au-dessus. Alors, on tombe dans un climat positiviste, scientiste, parce qu'il n'y a pas la foi divine. La philosophie et la science peuvent relativiser les traditions humaines. Mais il ne peut pas relativiser la foi. Et ça, ça fait partie, dans notre monde d'aujourd'hui, du très grand problème. Qu'est-ce que c'est que l'éthique religieuse? Donc vous voyez bien les deux niveaux de l'éthique religieuse au point de vue philosophique. Une éthique qui repose sur les traditions religieuses, qui sont plus que les traditions purement humaines. Il y a un degré de plus. Et puis l'éthique religieuse qui repose sur une métaphysique. Donc, l'éthique religieuse apparaît dès qu'il y a un acte nouveau, humain, volontaire, un acte d'amour, qui est l'adoration. Nous devons tout le temps revenir à cela si nous voulons comprendre ce que c'est que l'éthique religieuse. Comme on revient toujours à l'amour d'amitié pour comprendre l'éthique fondamentalement humaine, on revient toujours à l'adoration pour comprendre ce que c'est que l'éthique religieuse. Et pour voir ce que c'est que l'éthique chrétienne d'un point de vue philosophique, on doit tout le temps regarder cette Jésus, qui s'est dit fils de Dieu, et qui a donné une nouvelle finalité à l'homme, et qui a donné une nouvelle manière de vivre à l'homme, la manière évangélique. Donc, je crois que aujourd'hui, si nous voulons faire l'éthique reliée, si nous voulons faire une philosophie éthique, une philosophie morale, il faut tout le temps distinguer ces trois niveaux. Et tous les problèmes devant lesquels nous nous trouvons aujourd'hui doivent être regardés dans cette triple lumière. On doit les distinguer sans les séparer. Le chrétien vit tout de suite de l'éthique chrétienne. Non, moi, je ne serais pas chrétien. Péché, mais vous voyez, je ne dirais pas qu'il y a trois péchés, le péché humain, le péché religieux, le péché chrétien. Non, la chute est la même, avec des gravités différentes. Elle est plus grave pour le chrétien que pour celui qui ne vit qu'un point de vue humain. Mais la chute est la même, elle est passionnelle tout le temps. Toutes les chutes sont passionnelles. Parce qu'il y a même la passion de l'orgueil. Passion qui pénètre l'intelligence et qui aveugle l'intelligence. Alors, une fois qu'on a saisi cela, la place de l'adoration, la complexité de l'adoration, qui implique donc cette connaissance du Dieu créateur, qui implique cette volonté de rejoindre le Dieu créateur, qui implique le besoin de remercier le Dieu créateur, d'adorer en adorant. On remercie en adorant. Et l'adoration me met dans une position de vérité radicale, puisque la vérité la plus profonde, c'est que je suis une créature. Et si je comprends que je suis une créature, je dois donc remonter. fondamentalement humain et qui me met dans la vérité radicalement. Je suis vrai, humainement parlant. Je suis vrai quand j'adore. C'est pour ça que c'est tellement important d'adorer régulièrement et souvent, puisque chaque fois vous remettez parce que